Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Roréa. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes jeudi 30 Farvardin, 1403 du calendrier iranien, 18 avril 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Téhéran avait informé Washington de ses représailles contre Israël, selon le ministre iranien des Affaires étrangères. Le Conseil de sécurité de l'ONU examinera l'adhésion de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies en tant qu'État indépendant. Les frappes aveugles d'Israël continuent de faire de nouvelles victimes palestiniennes. Et le Hamas salue la récente opération punitive de l'Iran contre Israël. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies devra tenir vendredi un vote sur la demande palestinienne d'adhésion à part entière à l'Organisation des Nations Unies, et ce alors que les diplomates mettent en garde contre la possibilité d'un veto américain. Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, doit voter vendredi 19 avril concernant un projet de résolution recommandant l'admission de l'État de Palestine à l'ONU, ont indiqué des diplomates. Par ailleurs, des responsables espagnols, australiens et irlandais ont chacun soutenu la création d'un État indépendant palestinien et espèrent une reconnaissance de l'État palestinien à court terme. La reconnaissance de la Palestine en tant qu'État membre nécessite l'approbation du Conseil de sécurité avant de pouvoir être présenté à l'Assemblée générale des Nations unies, composée de 193 membres. L'Algérie, membre du Conseil de sécurité, qui a proposé le projet de résolution, avait appelé à un vote jeudi après-midi pour s'aligner sur une session du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient, à laquelle devraient participer plusieurs ministres, dont le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Les frappes aveugles d'Israël, qui durent depuis plus de 6 mois, continuent de faire de nouvelles victimes palestiniennes dans la bande de Gaza assiégée. Lors d'une dernière attaque, 7 civils, dont une femme et 3 enfants, ont été tués après qu'une structure résidentielle abritant des personnes déplacées a été prise pour cible dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. 13 autres personnes ont été tuées après qu'Israël a bombardé un groupe de citoyens près du pont Sheikh Radwan dans la ville de Gaza. Par ailleurs, des secouristes palestiniens ont récupéré le corps de 11 Palestiniens sous les décombres dans diverses zones de Khan Younes. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que le bilan des morts du génocide israélien s'élève à près de 33 000. Près de 76 000 autres personnes ont été blessées. L'Organisation mondiale de la santé a renouvelé son appel à la protection des hôpitaux de Gaza qui sont régulièrement la cible des attaques du régime israélien. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué la récente opération punitive de la République islamique d'Iran contre Israël comme une réponse légitime et méritée à l'attaque du régime sioniste contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas. Le mouvement palestinien a déclaré que l'opération iranienne avait mis fin à l'ère de l'impunité et de l'irresponsabilité du régime israélien. Le Hamas a également déploré le soutien des pays occidentaux pour défendre le régime sioniste contre l'opération punitive de l'Iran. Il a déploré le fait
que les États occidentaux, qui défendent Israël, ont gardé le silence sur le génocide perpétré par le régime israélien à Gaza et sur la répression sanglante des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Le Hezbollah libanais a réalisé mercredi 17 avril une attaque au drone contre un site militaire dans le village bédouin d'Al-Arab al-Aramcheh, situé au nord de la Palestine occupée, tuant et blessant plusieurs soldats israéliens. Les médias israéliens ont qualifié la récente frappe au drone du Hezbollah de grave, déclarant qu'il était question d'un incident des plus dangereux depuis le début de la guerre. La résistance islamique du Liban, Hezbollah, a annoncé mercredi 17 avril avoir attaqué le quartier général de la compagnie de reconnaissance militaire nouvellement créée et connue sous l'appellation du centre communautaire à l'aide de missiles guidés et de drones d'attaque. Le Hezbollah a annoncé dans son communiqué avoir infligé un coup direct aux Israéliens qui a fait des blessés et des morts parmi les soldats du régime sioniste. Un nouveau rapport de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a révélé les tortures et les violences sexuelles infligées aux Palestiniens détenus à Gaza par les militaires sionistes engagés dans une agression génocidaire contre l'enclave palestinienne depuis plus de 6 mois. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme que certains de ses employés, détenus par les forces israéliennes à Gaza, ont été soumis à de mauvais traitements et à de graves tortures pendant leur détention. L'agence onusienne a déclaré que les détenus avaient été soumis à des passages à tabac et à des traitements tels que la simulation de noyade et des menaces de viol. Ils ont également été contraints de se déshabiller, entre autres formes de mauvais traitements. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran avait tenu Washington au courant de son intention de mener des frappes contre Israël en représailles à l'attaque terroriste du régime sioniste contre les locaux diplomatiques du pays en Syrie. Hossein Amir Abdollahian a fait ces remarques lors d'un entretien avec l'agence IRNA jeudi matin 18 avril, à son arrivée à New York pour assister à une session du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur la Palestine. Il a déclaré que Téhéran avait informé Washington de sa décision de punir Israël conformément au droit international et au droit de la légitime défense à la suite des attaques israéliennes contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, qui a coûté la mort à 7 conseillers militaires iraniens le 1er avril. Après la frappe meurtrière d'Israël, l'Iran a déclaré au secrétaire général des Nations Unies que le Conseil de sécurité devait remplir son devoir de contrer les mesures du régime israélien. Après la réponse de représailles, baptisée « Vraie promesse » dimanche dernier, l'Iran a envoyé un autre message aux États-Unis par la voie diplomatique pour annoncer explicitement qu'il ne cherchait pas une escalade des tensions dans la région, a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. le ministre iranien des Affaires étrangères a averti que le comportement d'Israël pourrait entraîner davantage de tensions dans la région. Avant l'opération militaire contre Israël, l'Iran avait déclaré aux États-Unis qu'il n'avait pas l'intention de frapper les bases et les intérêts américains dans la région, à moins que Washington ne prenne des mesures pour soutenir l'agression du régime de Tel Aviv, a rappelé Hossein Amir Abdollahian. Au final, après le silence du Conseil de sécurité des Nations Unies face à la demande iranienne de réprimander Israël pour l'attaque de l'ambassade iranienne, attaque considérée comme une agression au sol iranien, Téhéran a donné comme il le devait sa riposte, lançant des centaines de drones et de missiles sur les territoires occupés palestiniens. Les frappes aériennes d'Israël sur le complexe de l'ambassade iranienne à Damas ont tué deux généraux de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Mohammad Reza Zahedi et le général Mohammad Hadi Haji Rahimi, ainsi que cinq de leurs officiers qui les accompagnaient. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné également que les développements régionaux et la situation dans la bande de Gaza s'étaient particulièrement aggravés, précisant que la réunion du Conseil de sécurité serait l'occasion de définir la position de l'Iran sur la nécessité d'établir une paix et une sécurité durable dans toute la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué qu'il s'entretiendrait avec le secrétaire général de l'ONU et ses homologues, ainsi qu'avec un certain nombre de hauts responsables d'organismes internationaux sur la fin immédiate de la guerre israélienne dans la bande de Gaza et sur l'envoi d'une aide humanitaire aux victimes de la guerre à Gaza. Israël a lancé une campagne brutale dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023. Le bilan des atrocités génocidaires du régime sioniste dépasse désormais les 34 000 tués, pour la plupart des femmes et des enfants.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous, je vous prie. Alors, suite à l'attaque aérienne d'Israël contre la section consulaire de l'Iran à Damas, donc l'Iran a riposté bien sûr, alors les attaques de drones et de missiles d'Iran contre Israël étaient une démonstration de dissuasion des forces aériennes de l'Iran, bien sûr. Cela a redéfini l'équilibre, bien sûr, des pouvoirs dans la région. C'est très important, bien sûr. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'Iran a riposté à l'attaque meurtrière du régime sioniste contre l'ambassade iranienne en Syrie au début du mois. L'opération iranienne visait une base aérienne israélienne et un quartier général des services de renseignement près de la Syrie, qui était à l'origine de l'attaque meurtrière contre l'ambassade iranienne. Des centaines de drones, de missiles balistiques et de croisières ont été utilisés lors de l'attaque. Il a été mené en plusieurs étapes, dans plusieurs directions, afin de supprimer et de submerger les boucliers antimissiles israéliens. Téhéran affirme que sa riposte a atteint tous ses objectifs. Il s'agit de la première fois que l'Iran a attaqué directement les territoires occupés palestiniens d'Israël. Plutôt, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, d'Iran, a réaffirmé que l'opération anti-israélienne menée tôt dimanche a eu plus de succès que prévu. Il a appelé le régime israélien à en tirer une leçon et à mettre un terme à ses agressions. Le général Salomi a souligné que si Israël répondait à l'opération iranienne, la réaction de Téhéran serait certainement beaucoup plus dure que précédemment.
Bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat d'aujourd'hui nos deux experts des questions internationales, en commençant par Maître Eli Hatam, analyste politique qui est avec nous depuis Paris. Monsieur Hatam, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Un grand bonjour à Emad Eddin Hamrouni, géopoliticien, universitaire, analyste politique. Bonjour Emad Eddin Hamrouni.
Bonjour à vous et à votre cher invité, Maître Hatam, et à tous nos téléspectateurs.
Un débat qui s'annonce prometteur. Nous parlons bien sûr de la riposte de la République islamique d'Iran à l'égard de l'attaque à la section consulaire de l'Iran à Damas, ce qui est donc une riposte sans précédent. C'est la première fois qu'un pays ose, bien sûr, attaquer Israël directement. Ma première question va s'adresser à Maître Eli Hatam, qui est avec nous depuis Paris. Maître, bien sûr, c'est une riposte importante. Et c'était comme une gifle, comme a déclaré le guide suprême de la révolution islamique à Israël. Que pensez-vous, je vous prie?
Bah écoutez, tout d'abord, peut-être il faut définir ou délimiter les termes juridiques relativement à cette opération. Il faut rappeler peut-être que l'Iran a été victime de plusieurs actes terroristes qui ont été commis contre lui par l'entité sioniste, par l'assassinat de savants, comme nous le savons, nous nous rappelons tous, en Iran même, avec des incursions de la part du Mossad israélien qui se trouve aux alentours de l'Iran et il a pu infiltrer le territoire iranien. Puis ensuite, il y a eu aussi, il ne faut pas non plus oublier, l'assassinat du général Qassem Soleimani. Et puis, troisièmement, il y a eu quand même récemment, le 3 janvier, un attentat, une attaque terroriste qui a été revendiqué par l'un des bras armés du Mossad et de l'entité sioniste, qui est l'État islamique au Khorassan. Bon, il y a eu une riposte parce que l'Iran, grâce d'ailleurs aussi aux renseignements qu'elle a pu collecter auprès de ses partenaires, dont la Russie, a pu quand même savoir que derrière cette revendication de ce groupe fantoche qui, comme je le disais, n'est autre que le bras armé ou une vitrine du Mossad et de la CIA américaine, on a pu savoir que cette antenne se trouvait à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Et puis, le dernier attentat et acte terroriste, il faut le dire, qui a été fait par l'entité sioniste à l'encontre de l'Iran, c'était l'attaque du consulat iranien à Damas, qui, comme vous le savez, est protégé par les dispositions de la deuxième conférence ou convention de Vienne de 1963. Donc, il y a eu, à partir de là, plusieurs attaques et l'Iran a fait preuve d'une retenue et je dirais un plus de respect du droit international public. Mais là, en fait, c'est un peu trop et vis-à-vis de l'opinion publique pour ne pas montrer que nous sommes un État faible. Il y a eu une décision qui est celle de représailles. De représailles à l'acte de belligérance, à savoir que, en théorie, les représailles ne sont pas toujours... La notion même de représailles ou le recours à la force dans les représailles pour rétablir la situation et obtenir en fait en quelque sorte la réparation donc du dommage est illégale parce qu'elle est contraire au principe du non-recours à la violence dans les relations internationales. Néanmoins, elle devient licite quand le Conseil de sécurité ne se prononce pas et puis surtout quand c'est un acte qui est assez important comme cette attaque terroriste contre le consulat et qui a tué des personnes d'ailleurs qui se trouvaient dans ce consulat qui donne une légitimité, surtout du recours à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit la possibilité d'un État lésé d'avoir recours à la légitime défense et pour réparer son préjudice. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, d'un point de vue, je dirais, politique, stratégique et géopolitique, nous avons vu que ces représailles ont été, d'une manière, comme vous l'avez dit, dissuasives, parce que l'Iran ne veut pas, c'est pas comme l'État, comme l'entité sioniste, ne veut pas faire de victimes humaines. Il a simplement montré que nous sommes capables de répondre par des actes violents comme le vôtre, mais nous ne l'avons pas fait, mais simplement nous voulons vous donner une leçon que nous pouvons. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, la notion de dissuasion, c'est montrer que nous avons aussi bien Absolument. La force que nous pour pouvoir répondre.
Absolument. Merci, Maître Liratam. Bon, sans aucun doute, depuis le début de la révolution islamique, l'Iran a toujours cherché à mettre en œuvre des mesures pour faire régner la stabilité et la sécurité de l'Iran, mais également de la région. Emadeddin Hamrouni, bien sûr, cette riposte a donc redéfini l'équilibre du pouvoir dans la région. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
D'abord, il faut saluer le courage politique de la République islamique d'Iran, et il faut noter que le 14 avril 2024, c'est une date historique pour le peuple iranien, pour la révolution islamique et pour tous ceux et celles qui luttent contre le sionisme dans le monde. Car il faut mettre cette réponse dans son cadre de l'affrontement global entre un système globaliste sioniste qui met à pas tout le monde, c'est-à-dire tous les États dans le monde, ils sont au service du sionisme international. Et on le voit, c'est-à-dire personne n'a condamné l'agression du consulat général iranien à Damas. Pourquoi? Parce que tous ces gouvernements sont dirigés par le mouvement sioniste international. Et ce mouvement international sioniste, il a eu donc le premier gifle, la première gifle, si vous voulez, le 7 octobre, par un groupe militaire des combattants de Gaza. Et le deuxième grand gifle, c'est le 14 avril par les gardiens de la révolution islamique. Donc c'est une étape importante des mouvements dans le monde, parce que la République islamique d'Iran ne représente pas simplement aujourd'hui le peuple iranien ou le peuple musulman dans la région, il représente tous les peuples dans le monde qui veulent et qui luttent pour se libérer du sionisme international. Donc c'est une lutte globale, c'est pas une lutte nationale, c'est pas une lutte religieuse, c'est une lutte de libération du monde, du joug du sionisme international. Et c'est pour cette raison qu'on a des difficultés à comprendre les actions du sionisme dans le monde. Car aujourd'hui, ils sont dans l'impasse. Dans l'impasse, comment ils doivent répondre à la réponse iranienne? Et il faut bien noter, j'ai suivi moi-même depuis deux jours la réaction des grands experts français, allemands, britanniques, américains, je dis bien les experts militaires. Ils ont dit que c'est une vraie démonstration de force. C'est la première fois qu'on voit cette démonstration de 300 entre drones et missiles qui traversent 1500, 1700 kilomètres et qu'ils arrivent à leur...
Nous avons du mal à vous entendre, Emadeddin Hamrouni.
N'a pas visé les civils.
Oui, nous vous entendons. Poursuivez, je vous prie.
L'opération n'a pas visé les civils israéliens. Et ça, c'est très important à noter. C'est-à-dire, l'opération, elle était purement militaire et purement stratégique. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Iran dit aux États-Unis, en fait, il ne s'adresse pas aux Israéliens, il s'adresse aux États-Unis en disant... Nous avons la capacité militaire de détruire l'entité sioniste. Si ces missiles, entre parenthèses, si ces missiles, ces drones sont partis du sud de Liban ou de l'Irak ou de la Syrie, que pensez-vous? C'est-à-dire que sur les 300, il y aura 90% qui vont atterrir dans le territoire israélien. C'est-à-dire le message, c'est un message stratégique. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons une solution politique pour la question palestinienne et pour toute la région. Si vous voulez la paix, on est prêt à faire la paix, on est prêt à négocier. Par contre, si vous voulez la guerre, en quelques jours, l'entité sioniste va être anéantie.
Absolument. Si vous cherchez la guerre, vous l'aurez. Donc, c'est le message et la démonstration de dissuasion de l'Iran à l'égard donc, des attaques d'Israël. Tout à l'heure, Maître Attin, vous avez fait une liste donc, des crimes commis contre l'Iran, mais également dans la bande de Gaza. Si on devait compléter cette liste, on en aura jusqu'à demain, bien sûr. Est-ce que vous avez de l'espoir, Maître Attin? Après cette riposte, Israël va comprendre enfin qu'il devrait cesser donc, de commettre de barbaries et de mener des guerres génocidaires dans la bande de Gaza, par exemple, et contre donc d'autres pays comme l'Iran, la Syrie ou bien l'Irak. Est-ce que ça sera peut-être la fin donc, de cette barbarie de la part d'Israël?
Écoutez, il faut l'espérer. Mais vous réfléchissez un peu comme les Occidentaux ou comme le reste donc, des pays de la planète. C'est que dans des termes en fait, qui sont applicables ou des façons de penser qui est classique dans des pays en fait, qui ne sont pas gouvernés par une idéologie fanatique. Malheureusement, et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont des Israéliens qui ont réussi à s'en sortir. C'est un peu comme vous entrez dans une secte et vous sortez de cette secte-là. Et je vous invite, ou j'invite vos téléspectateurs, de regarder ces émissions, ces vidéos, ces livres qui ont été rédigés par des Israéliens qui ont réussi à s'émanciper de cette idéologie et qui vous montrent à quel point ils sont prêts à mourir, à se sacrifier pour cette cause. En fait, c'est le Eretz Israël, le grand Israël, et dominer, et cette idée, si vous voulez, donc de domination. Donc, je suis un peu sceptique, parce que je pense que malgré tout, c'est un va-t-en-guerre, pas simplement que Netanyahou, tout le monde pense que c'est Netanyahou, que c'est Ben Gvir, ou c'est ces trois personnages, mais il y a tout un appareil, il y a toute une idéologie qui est derrière ça. C'est un peu comme Daesh, ou les militants de Daesh, ou de l'État islamique, qui ont une idée fanatique et qui va jusqu'au bout, qui veulent la défendre, même en se faisant exploser avec des explosifs qu'ils mettent autour de leur corps. Et c'est la même notion, malheureusement, c'est le même extrémisme auquel nous assistons au sein de cette entité, chez une bonne partie, moi je ne dis pas la majorité, mais je dis quand même une bonne partie, donc des gens qui sont au pouvoir et qui sont surtout dans les services de renseignement, et ils reçoivent malheureusement aussi l'appui des États-Unis, en particulier des néoconservateurs et des évangélistes qui ont aussi une théorie eschatologique sur laquelle ils fondent cette idéologie de soutien aveugle à ce comportement de l'entité sioniste qui ne veut pas simplement prendre Gaza et la Cisjordanie, mais il veut s'étendre. Et ça, c'était ce qu'affirmait Benjamin Netanyahou au monde, aux Nations Unies, en disant que voilà, c'est Eretz Israël qui va s'étendre du Nil jusqu'à l'Euphrate. C'est ce qui fait peur d'ailleurs à l'ensemble donc, des pays de la région, y compris le Liban, y compris l'Égypte, qui à un moment donné, comme vous le savez, a eu une certaine normalisation avec, avec l'entité sioniste. Mais là, il est revenu sur ses pas en sachant quand même qu'il y a un danger auquel il s'affronte et surtout avec l'arrivée aussi des réfugiés donc palestiniens, mais également une extension, une étendue du territoire de l'entité jusqu'au Sinaï. En rappelant une chose, c'est que l'entité sioniste qui a été déclarée en état en 1948 n'a pas de frontières. Donc c'est rare de voir un état qui n'a pas de frontières définies. Voilà, alors c'est la raison pour laquelle que je reste pessimiste, surtout qu'il y a malheureusement un soutien à tout cela par les États-Unis qui utilisent leur droit de veto au Conseil de sécurité. Nous voyons également cet esprit hautain chez les dirigeants sionistes qui ne respectent aucune résolution ni du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni de l'Assemblée générale des Nations Unies, et ne reçoivent en contrepartie aucune sanction, alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 19 000 sanctions à l'encontre de la Russie.
Oui. Emad Eddine Hamrouni, Maître Elie Hatam n'a pas mâché ses mots, il est resté sceptique et pessimiste à l'égard de l'avenir. Est-ce que vous partagez donc cet avis? Quelle est votre réaction, je vous prie?
Oui, tout à fait, parce qu'à la base, la création de l'entité sioniste, elle était sur une idéologie, le sionisme. Donc le sionisme, c'est une idéologie religieuse. Il faut noter que c'est des athées, c'est des non-croyants juifs qui ont créé l'entité sioniste sur des bases soi-disant religieuses. Donc aujourd'hui, comme Ehud Barak l'a dit il y a deux jours, c'est-à-dire que Netanyahou est piégé par son gouvernement, par ses alliés d'extrême droite dure, comme Maître Atem l'a bien démontré, et même il y a une partie de l'élite israélienne qui est d'accord avec Maître Elie Hatam sur ce sujet-là. Donc, en fait, ce qui est intéressant de souligner, c'est que, un, il y a le 7 octobre, il y a eu le 7 octobre, deux, il y a eu ce réveil occidental, c'est-à-dire lorsque je vois, moi, la jeunesse américaine, la jeunesse française, la jeunesse britannique, la jeunesse espagnole, belge, elle s'éveille, c'est-à-dire elle prend un sursaut, elle prend conscience que ces gouvernements qui gouvernent l'Europe aujourd'hui, qui gouvernent les États-Unis, ils ne gouvernent pas pour l'intérêt de la France, pas pour l'intérêt de l'Europe, pas pour l'intérêt des États-Unis. C'est pour l'intérêt d'une minorité sioniste. Le sionisme ici n'est pas juif. Dans le sionisme, il y a des Arabes, il y a des Juifs, il y a des chrétiens, il y a des croyants musulmans, comme Maître Hatam l'a bien dit sur Daesh et compagnie, c'est des groupes sionistes. C'est-à-dire que le sionisme aujourd'hui n'a pas une couleur sémite. C'est-à-dire lorsqu'on parle de sionisme, on n'est pas antisémite. Et donc cette idéologie, c'est une idéologie dure, qu'elle a les moyens politiques, elle a les moyens économiques, elle a les moyens militaires. Et donc ils vont continuer leur harcèlement pour l'Iran. Ils vont continuer leur embargo, leurs sanctions contre la Russie et contre l'Iran surtout. Et donc, on va aller dans des affrontements plus durs. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'ennemi sioniste qui est piégé. Piégé par lui-même, en fait, parce qu'il veut la guerre. Il a vécu que par la guerre. Et donc, aujourd'hui, la guerre, elle est dans son territoire. C'est-à-dire, dans ce territoire, la Palestine occupée et l'éveil des peuples européens et occidentaux. Moi, je compte beaucoup, je compte plus sur le peuple européen que sur les peuples arabes, par exemple. Parce qu'on a vu pendant 7 mois qu'est-ce que les peuples arabes ont donné. Rien. Ils attendaient les missiles iraniens qui viennent de 1500 kilomètres. Alors qu'il y a quelques mètres entre l'Égypte et Gaza. Il y a quelques mètres entre la Jordanie et la Cisjordanie. Les arabes, c'est fini aujourd'hui. Donc les populations arabes, c'est comme les Indiens d'Amérique il y a un siècle et demi. C'est-à-dire qu'ils ne forment pas une nation. C'est des populations qui habitent un territoire dirigé par les États-Unis. Et donc ça, c'est malheureux de le dire, mais c'est vraiment, aujourd'hui, on a le peuple iranien, on a le peuple turc, on a les peuples européens qui, eux-mêmes, aujourd'hui, se sont éveillés et qui ont la capacité civilisatrice, la capacité économique, la capacité militaire de vaincre le sionisme dans le monde.
Oui. Maître Hatam, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie? Est-ce que vous voulez bien conclure? Car tout de même, il y a eu une grande admiration chez beaucoup de populations à travers le monde de la riposte donc, de l'Iran à l'encontre d'Israël. On a l'impression que le monde entier est avec l'Iran et connaisse bien Israël.
Ben écoutez, parce que l'Iran a fait preuve quand même d'un respect méticuleux du droit international. Malheureusement, les médias en Occident ont été complètement malhonnêtes, il faut le dire. Parce que qu'est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont parlé de l'attaque iranienne contre Israël. Et certains politiques qui sont sous la pression, le terrorisme intellectuel des lobbies sionistes auxquels a fait référence M. Hashmi Hamrouni quand il a parlé, donc en fait que les gouvernements en Occident sont gouvernés par les idéologies sionistes, moi je dirais qu'ils sont malheureusement sous l'hégémonie, sous la pression des lobbies sionistes, et nous l'avons vu dans les médias, ils ont présenté cela comme étant une attaque iranienne à l'encontre d'Israël. Si vous voulez, ça c'est le chapitre principal, c'est le titre qu'on a vu. Et puis si vous regardez les réactions à ces émissions sur YouTube, et vous verrez que les gens commencent à se réveiller, comme a très bien souligné M. Hamrouni, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Mais quand même, c'est que ce n'est pas une attaque, ce sont des représailles. Et en termes journalistiques, ou en termes, je dirais, populaires, il s'agit d'une riposte. Qui a attaqué le premier? Si vous voulez revenir simplement à ce qui s'est passé à Damas et les représailles à cet acte de belligérance, on voit très bien que c'est une réponse du berger à la bergère, surtout que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, n'a pas pu se prononcer en raison, bien entendu, des difficultés rencontrées par les alliés de l'entité sioniste, et qui sont sous la pression et sous le terrorisme exercé par cette entité sur elle, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Et donc, c'est la raison pour laquelle que l'opinion publique internationale commence à se réveiller. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, on vous ment une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais vous ne pouvez pas mentir indéfiniment. Je vous donne, et je termine là-dessus, l'exemple de ce qui s'est passé aussi le 22 mars dernier en Russie. Nous avons vu quand même tout de suite ces médias occidentaux totalement, il faut dire, malhonnêtes, qu'ils ont commencé à reprocher tout d'abord à la Tchétchénie, comme si c'était un attentat effectué par les Tchétchènes, avant même qu'il y ait une première suspicion, une première revendication. Et par la suite, absolument, ils ont tout de suite fait, avant la revendication de l'État islamique et le deuxième communiqué d'État islamique au Khorassan, ils ont commencé à dire que c'est un attentat islamiste. Or, jusqu'à aujourd'hui, la Russie est en train de rechercher qui sont les véritables commanditaires et ne croit pas à cette thèse qui a été répandue par cette propagande occidentale. Et c'est la raison pour laquelle les occidentaux vont faire de moins en moins confiance à leurs médias, puisqu'ils découvrent quand même que la réalité est totalement déformée. Sont les victimes qui deviennent les bourreaux et les bourreaux qui deviennent les victimes.
Absolument. On ne pouvait pas mieux terminer cette émission qu'avec les propos de Maître Elie Hatam, analyste politique et juriste. Merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission, Elie Hatam. Un grand merci à Madedine Hamrouni qui nous a accompagnés depuis Paris et d'avoir apporté donc beaucoup de détails à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 15 à 23 du chapitre 51 du Noble Coran, la Sainte Sourate Azariyat, qui éparpille. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 15 à 19 de la Sainte Sourate Azariat, puis nous vous en donnerons la traduction.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
Les pieux seront dans les jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné. Car ils ont été auparavant de bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon de Dieu. Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. L'une des méthodes d'enseignement du Coran consiste à comparer les bons et les méchants. Dans le programme précédent, il était question de ceux qui niaient la résurrection et des malfaiteurs. Ici, ces versets décrivent les caractéristiques des purs et des pieux et disent « Ces gens-là recevront la grâce de Dieu au jour de la résurrection parce qu'ils ont été bons envers les autres dans ce bas monde. » On peut dire que certains de ceux qui nient la résurrection aide aussi les autres par l'altruisme pour leurs sentiments humains. Mais les croyants au cœur pur, en plus de leur bienveillance envers les serviteurs de Dieu, entretiennent également une relation avec le Seigneur. Ce sont des gens de prière et de recherche du pardon. Pendant la journée, ils pensent aux autres et pleurent pour eux, et la nuit, ils pensent à eux-mêmes et à Dieu, et renforcent leur relation spirituelle avec le Seigneur. Ces versets du noble Coran nous apprennent que renoncer aux plaisirs contaminés par le péché dans ce monde conduit à des plaisirs durables et à un succès permanent dans l'au-delà. La communication avec Dieu par la prière et la bienveillance envers les nécessiteux sont les deux ailes pour voler vers le royaume du Seigneur et atteindre le salut éternel. Consacrer une partie de la nuit à la prière est l'une des caractéristiques des pieux. Le meilleur moment pour demander le pardon de Dieu est à l'aube. Et ce qui est donné aux nécessiteux et aux démunis leur appartient en propre, car Dieu a placé dans les avoirs des humains une part pour les pauvres et les nécessiteux. Par conséquent, les riches qui donnent de la charité ne doivent jamais s'en vanter. Voici maintenant les versets 20 à 23 de la Sainte Sourate Azariat qui
éparpille. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par le Seigneur du ciel et de la terre. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Dans les versets précédents, il était question de la résurrection. Ici, ces versets reviennent sur la connaissance des origines de la création et disent « Pourquoi l'homme n'ouvre-t-il pas ses yeux et ne regarde-t-il pas la grandeur de sa création et du monde qui l'entoure ?» Selon les paroles des chefs religieux, il a été souligné que celui qui se connaît connaîtra son Seigneur. Aujourd'hui, des dizaines de disciplines scientifiques, notamment dans le domaine des sciences médicales et de la psychologie, étudient les dimensions différentes de l'existence humaine, de son corps et de son esprit, afin de parvenir à une compréhension plus complète de l'être humain. Cependant, malgré tous les efforts déployés dans ce sens, on peut affirmer que de nombreux aspects de son existence restent inconnus, et on peut encore affirmer que l'homme est un être inconnu. Les étapes de la croissance humaine, depuis la période embryonnaire jusqu'à sa croissance en tant qu'être humain adulte et complet, ainsi que les capacités et talents étonnants qui ont été placés en lui, font partie des merveilles de la création et montre que le Créateur était conscient de tous les besoins de l'homme. Chaque organe du corps, comme les yeux, les oreilles et les dents, ou les systèmes internes du corps, comme la circulation sanguine, la digestion, la respiration ou le système de défense de l'organisme, font l'objet des recherches des spécialistes. Par ailleurs, la Terre, sa distance par rapport au Soleil et aux autres planètes, ses différents mouvements dans l'espace, ses hautes montagnes et ses vallées profondes, et les océans font partie des signes de la sagesse et de la puissance infinie du Seigneur. En fait, la Terre est comme une mère généreuse qui répond à tous les besoins naturels des humains et de tous les êtres vivants, et le sol assure la croissance de toutes les plantes. Il est clair que si les humains réfléchissent attentivement à la création de l'homme et de l'univers, ils se rendront compte de l'existence d'un créateur sage et puissant, et comprendront que leur création était basée sur la sagesse et suivait un but suprême. Leur existence ne s'arrête certainement pas avec la mort, parce qu'ils continueront leur existence après la mort. Ces versets du noble Coran nous apprennent que l'une des méthodes d'enseignement du Coran pour connaître le Créateur est de prêter attention à ses signes dans l'univers de la création. Évidemment, avec les progrès de la science, les signes de la sagesse et de la puissance de Dieu deviennent de plus en plus évidents aux yeux des humains. La connaissance de soi est l'une des meilleures façons de connaître son Créateur. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 51 du noble Coran, la sainte sourate Azariyat, qui éparpille. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.